Bonsoir tout le monde. Bonsoir Francis.
Bonsoir Jean-François.
Alors vous êtes sur RTF 95.4 depuis très longtemps. Vous écoutez le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte depuis très longtemps. Une émission très ancienne, au moins aussi ancienne que le masque et la plume. Alors ce soir, de la musique classique, du jazz et j'allais dire de la littérature. Oui, un peu de littérature et un témoignage, disons, qui n'est pas vraiment de la littérature.
Donc deux livres. Des registres très différents.
Voilà, deux livres. Dans des registres très différents. Musique classique, c'est très varié aussi, puisque ça ira de Jean-Marie Leclerc, rien à voir avec...
Avec Pierre-Édouard Leclerc.
Avec Pierre-Édouard Leclerc. Ça ne s'écrit pas pareil, en plus. Ça ira de Leclerc à Arnold Schoenberg.
C'est-à-dire, en gros, du XVIIe siècle.
Oui, de fin XVIIe, plutôt XVIIIe. Schoenberg, c'est le début du XXe siècle. Et j'ai même porté un disque de Michael Nyman.
Très bien,
voilà.
Très intéressant.
Je ne sais pas si on l'écoutera ou pas, enfin bref.
Ça dépend si on est bavard sur les livres.
Voilà. Et puis alors, est-ce que vous... Ah ben, alors vous avez encore déniché des coffrets dédicacés, j'imagine.
Ouais, évidemment. un de Stan Getz.
Bon. Hein? Ouais, c'est pas si frais. Là, ça, c'est assez rare quand même.
Oui. C'est vrai, c'est pas souvent qu'on en passe dans cette émission.
Non,
un autre de Émile Parisien que vous connaissez bien.
Oui, on connaît Émile Parisien.
Il a travaillé à Limoges avec Jean-Michel Légoni.
Et puis il y avait Anne Passeo aussi.
Oui, aussi.
Vous avez passé des disques d'Anne Passeo.
J'en ai dans mon sac, là, si vous voulez, je vous en saurai.
Anne Passeo.
Oui, très très jolie et puis très, très talentueuse.
Et très talentueuse,
oui, vraiment. Et puis j'ai aussi là un disque de Jean-Pierre Comeau qu'on avait eu beaucoup de chance de voir justement à la Borie à l'époque. Il était venu donner un concert. Je vous en reparlerai, mais le disque que j'ai ce soir n'est pas celui de ce concert-là, mais d'un autre. Mais c'est très intéressant aussi. Voilà quelques... C'est très varié en jazz également.
Bon, alors moi, j'ai gratté dans ma bibliothèque. Alors, pour être tout à fait franc avec nos auditeurs, j'ai entrepris la lecture de plusieurs livres. Et je dois dire que ce sont des livres que je n'ai pas jugés suffisamment intéressants pour faire l'objet d'une recension dans notre émission. Donc je suis allé chercher un livre que j'ai lu les soirs avant de m'endormir, Célébration au pluriel de Michel Tournier. Michel Tournier qui est mort, je crois, en 2016 et qui a été, alors il est un peu dans l'oubli, mais un grand écrivain. Et alors ses essais, comme il les intitule, sont vraiment très intéressants et très plaisants à lire. Très différent, un livre de Chloé Chaudet. Alors Chloé Chaudet est maître de conf à la fac de Clermont en lettres modernes, et elle publie un livre qui s'appelle « J'ai décidé de ne pas être mère » aux éditions de l'Iconoclaste. Alors je vous dirai ce que contient ce livre. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, si on commençait par notre page classique.
Eh bien, on va commencer par notre page classique. Donc, Jean-Marie Leclerc, qui était un violoniste magnifique. Alors, celui-ci joue comme un ange, celui-là comme un diable. Et celui-ci, c'était Jean-Marie Leclerc, et celui-là, c'était Locatelli. Et... ils avaient joué ensemble à la cour de Kassel en Prusse, et dans cette anecdote, eh bien, on nous rapporte que c'est, paraît-il, le roi de Prusse, ou peut-être le bouffon du roi de Prusse, qui aurait formulé cette appréciation sur les violonistes. 1737, on est au milieu du XVIIIe siècle, et Jean-Marie Leclerc est un violoniste virtuose et qui a beaucoup écrit pour le violon, en particulier ses récréations de musique. Alors, je vous propose d'écouter la première de ces récréations de musique de Jean-Marie Leclerc. Et alors, figurez-vous qu'il est interprété par l'ensemble baroque de Limoges.
Ah ah, sous la direction de Christophe Coin.
De Jean-Michel Asler.
Oh, c'est une vraie
Jean-Michel
antiquité.
Jean-Michel Asler, c'est une vraie antiquité, effectivement. D'ailleurs, c'est dans 78 tours, en fait.
Eh oui, d'ailleurs, on est obligé de ressortir et d'emprunter à nos amis de Swing FM un lecteur de 78 tours qui se remonte avec une
absolument
manivelle.
Alors, quand même, un petit détail amusant. Dans la distribution de l'orchestre de l'ensemble baroque de cette époque, c'est-à-dire on est en, je sais plus, enfin, j'ai les dates quelque part, mais
dans les années 90.
Dans les années 90, voilà. Alors, je vois le nom de Eckhard Kahle à l'alto. Et Eckhard Kahle, qui est un très bon altiste, est aussi un ingénieur acousticien suffisamment expérimenté et réputé pour qu'on lui confie rien moins que l'étude acoustique de la nouvelle salle de musique qu'il y a à Paris, Porte de Bagnolet. Voilà.
Du beau linge.
Du beau linge.
Sur ce 78 tours.
Bien.
Allez,
alors,
nous l'écoutons. Thank you.
Voilà, eh bien, c'était cette pièce de Jean-Marie Leclerc, interprétée par les musiciens de l'ensemble baroque de Limoges. Voilà, je cherchais, c'est la Philharmonie de Paris, j'avais le nom sur le bout des lèvres, dont l'étude acoustique a été faite par Eckart Kalle.
Que nous venons d'entendre, donc, voilà. Et qui participait à l'ensemble baroque à l'époque.
Comme altiste, et qui a continué d'ailleurs après sous Christophe Coin, garçon charmant et ingénieur expérimenté. Mais sans doute il aurait aimé enregistrer Stan Getz.
Ah, sûrement. Alors là, c'est un enregistrement de 87, donc c'est vrai que c'est pas tout jeune, effectué à Copenhague, et c'était une tournée que Stan Getz a faite en Europe, où il jouait beaucoup, avec en particulier au piano Kenny Barron. Alors ça donne un bel ensemble bien homogène avec d'autres musiciens que je ne vous citerai pas maintenant. Et je vous propose d'écouter un standard de chez Standard, People Time de Benny Carter.
Thank you.
Voilà, enregistré à Copenhague au Café Montmartre.
C'est vrai que c'est un son absolument unique.
Ouais.
Moi, pour écouter beaucoup de saxophones, pour des raisons à la fois familiales et voilà, il a un son qui n'appartient qu'à lui.
C'est vrai, on le reconnaît dès les premières mesures.
C'est sûr.
C'est formidable.
Alors, on commence par Chloé Chaudet, j'ai décidé de ne pas être mère aux éditions de l'Iconoclaste. Donc, je vous disais, Chloé Chaudet, elle a 35 ou 30, je ne sais pas quoi, la petite quarantaine. Et elle est prof, donc elle est enseignante-chercheure à la fac de lettres de Clermont-Ferrand en lettres modernes. Mais ce n'est pas pour nous dire ça qu'elle a écrit ce livre. Alors, c'est un livre plus un témoignage qu'une réflexion ou qu'une création littéraire. Mais après tout, pourquoi pas ? Alors, elle ne veut pas... Elle explique que, évidemment, elle n'aime pas les gamins qui crient, elle n'aime pas les gamins qui réveillent leurs parents, elle n'aime pas l'idée d'avoir à organiser des anniversaires, d'avoir à organiser les vacances des gamins, elle est épouvantée par ce qu'on appelle parfois la charge mentale. Dans toutes ces choses-là font que elle n'en a pas envie. Son non-désir est renforcé par les réactions à la fois de sa famille et de ses amis, qu'elle trouve exécrables et épouvantablement intrusives, du genre « alors, quand est-ce que tu t'y mets ?» ou bien, elle raconte quand elle a eu son poste donc à la fac de Clermont-Ferrand, une de ses amies qui lui dit « bon, bah, écoute, maintenant, tu as un poste, tu es titulaire, tu es rangé, tu es stable, ça serait le moment de faire un enfant. » Joint à cela, sa gynécologue qu'elle va consulter comme ça, et qui lui dit « oui, bah vous savez, vous devriez vous préoccuper de faire des enfants, parce que c'est maintenant ou jamais. » Alors, et donc elle revendique la liberté de ne pas être mère, et la liberté d'être heureuse et satisfaite, sans pour autant être mère. Alors, il faut lui rendre cette justice. Alors, elle ne prétend pas faire une œuvre littéraire, c'est un témoignage, voilà. Il faut quand même lui rendre cette justice, c'est que elle dit volontiers, si vous avez envie d'avoir des enfants, ayez des enfants, je ne vous reproche rien. Et elle ne dit pas, les enfants sont une bombe démographique, j'ai lu un livre sur la question. Apparemment, ce n'est pas vraiment vrai que la multiplication du nombre d'enfants contribue pour une grosse part à la dégradation climatique. Mais c'est une affaire compliquée et très technique. Voilà, donc elle n'utilise pas de trucs du genre « je ne fais pas d'enfants parce que je n'ai pas envie de détruire la planète » ou même « je ne fais pas d'enfants parce que je ne me vois pas donner la vie à des gens qui auront eux-mêmes une vie épouvantable, gâtée par les crises économiques, la crise climatique, la crise migratoire, etc. etc. » Non, c'est une espèce de long plaidoyer pour dire « écoutez, arrêtez de m'embêter, je fais ce que je veux. » Et là, de ce point de vue-là, elle a raison, et c'est ce qu'il y a, je crois, de plus intéressant dans ce livre, c'est-à-dire, vous voulez des enfants, vous en avez, parfait. Vous n'en voulez pas, parfait aussi.
Est-ce que d'une certaine façon, elle se situe dans la filiation d'Elisabeth Badinter, qui avait développé la thèse selon laquelle on ne naît pas mère, on le devient, que c'est quelque chose de culturel et d'acquis.
Absolument.
Et de pas vraiment spontané et naturel.
Je dirais que... oui, c'est un peu ça. Elle dit, bon, on n'a pas envie, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est programmé pour avoir des enfants. Elle dit, mais il y en a qui ont envie d'en avoir, qui en ont, c'est très bien. Je ne les envie pas parce qu'elles ne dorment pas, qu'elles deviennent imprésentables, qu'elles ont des vieux t-shirts tout pourris et plein de taches de vomi, et puis, etc., etc., etc. Ce qui est assez drôle, vous savez, le côté Claire Bretéché, quoi, voilà. Bon, et effectivement, elle fait référence à, non seulement à Elisabeth Badinter, oui, c'était dans L'Amour en plus que Elisabeth Badinter avait développé l'idée que ça n'était pas instinctif, l'amour maternel, et que c'était culturel, et que ça venait, c'est une idée qui était apparue au XVIIIe siècle. Bon, on pourrait en reparler, mais c'est quelque chose de passionnant. Voilà, c'est un livre qui se lit alors très très vite, hein, très très vite. Alors elle termine en disant oui, maintenant le féminisme promeut les lesbiennes, les noires, les etc etc. Pourquoi pas les vous savez, on dit child free maintenant, mm-hmm. plutôt que childless, on disait autrefois, voilà, ouais. hein, sans enfant, et maintenant, c'est, voilà, comme on dit sugar free, il n'y a pas de sucre dedans. Voilà, bon, c'est publié aux Iconoclastes, celles qui aiment les enfants n'y trouveront rien à dire, et pas grand intérêt non plus. En revanche, celles qui n'ont pas envie et qui sont agacées quand on leur demande avec une sorte de pitié pourquoi vous ne voulez pas d'enfants, vous ne pouvez pas en avoir.
Ou de regard condescendant.
Ou de regard condescendant, voilà.
Ou culpabilisant.
Voilà, culpabilisant, hein, eh bien celles-là, elles trouveront des arguments pour se défendre. Et on leur souhaite bien du plaisir. Voilà, ça s'appelle J'ai décidé de ne pas être mère par Chloé Chaudet.
Aux éditions
de l'Iconoclaste.
Merci, oncle Jean-François. Et c'est à nouveau à vous de présenter le morceau suivant, puisque c'est un deuxième classique.
Alors écoutez, je vous ai dit que nous écouterions des choses peu communes. Pancras Royer, musicien du XVIIIe siècle, un auteur d'opéra.
C'est un prénom dont l'occurrence est assez rare.
Pancras. Pancras.
Il doit y avoir un ami de Brassens qui s'appelait Pancras, je crois qu'il le dit dans une chanson.
Eh bien, écoutez, voilà, il y a eu ce Pancras Royer, donc la marche des Scythes, alors des Scythes, S-C-Y, bien les sûr. Gens de Scythie, c'est-à-dire, je crois, plus ou moins la Roumanie actuelle. La Roumanie, la Géorgie, tous ces coins-là. Voilà, interprété par Skip Sempé au clavecin.
Alors maintenant notre deuxième page jazz, Jean-François.
Alors
et j'étais en train de vous montrer des photos, oui, qui étaient à l'intérieur du CD qu'on va écouter
Daniel
maintenant.
Daniel Humer et Émile Parisien, et je ne sais plus qui étaient les autres. Je ne reconnais pas.
Un bel ensemble avec donc Daniel Humer à la batterie, évidemment.
Oui.
Émile Parisien saxo, Vincent Perani, un accordéoniste.
Voilà.
Moi, je place très haut dans les accordéonistes de jazz.
Oui.
Et puis Jérôme Regard, un excellent contrebassiste, vraiment un quatuor de rêve.
Voilà. Donc
et alors photographié.
À la Borie, au château de la Borie, dans la neige.
Dans la neige, car l'enregistrement s'était fait au studio La Borie du temps où il était à Solignac.
Bon.
Et alors, écoutez ce que dit Daniel Humer à propos de cet enregistrement. C'est intéressant. Il dit « Nous tenons, Vincent, Émile, Jérôme et moi, à éviter les aimables relectures de pièces bien rodées, ainsi que les effets grosses ficelles qui fonctionnent et assurent le succès facile d'une musique trop proche du commerce. Nous avons la certitude que pour continuer à faire vivre le jazz, qui est quand même la musique la plus libre par la large place faite à l'improvisation, il faut sortir d'une routine imposée, prendre des risques, s'égarer quelquefois, profiter de ces égarements pour affiner nos propositions, sans pour cela s'interdire d'interpréter à notre manière quelques mélodies qui inspirent et séduisent, ou de belles compositions d'autres musiciens. J'ai, à chaque prestation de ce nouveau groupe, une sensation de bien-être, de jubilation, de complicité, l'impression d'avoir fait un pas en avant, et je n'ai qu'une envie, vite recommencer et me remettre encore en question. » Voilà, moi je trouve que cette définition du jazz...
Oui, c'est l'essence même du jazz.
Voilà, on prend des risques, on avance... Parfois on trébuche, parfois on fait des choses chouettes, mais en tout cas on vit des instants de plénitude.
Et pour autant, c'est pas n'importe quoi.
Normalement, ce n'est pas n'importe quoi. Parfois ça s'égare, parfois ça déroute. C'est un peu à l'image des toiles de Daniel Humer que nous connaissons aussi comme peintre, puisque nous avions eu le plaisir de voir une exposition qu'il avait faite et de le rencontrer. Et donc, c'est un beau disque que j'ai retrouvé dans ma discothèque, qui avait été enregistré et édité en 2012 par La Borie Jazz, à la grande époque, évidemment, du château de La Borie.
Alors, une anecdote en passant, Éric Durand, mon professeur d'harmonie et d'écriture, qui enseigne ce qu'il y a de plus classique, mais de temps en temps me dit « Non, tu pouvais pas mettre cet accord-là, mais un jazzman, oui. »
Ah, eh bien écoutez, on va en avoir l'illustration. Thank you. Michel Tournier est au programme.
Oui, alors Michel Tournier, c'est un livre que j'ai découvert dans ma bibliothèque et lu donc avec plaisir. Alors c'est un livre, Le dépôt légal, c'est 1999. Ça s'appelle Célébration au pluriel. Ce sont des textes courts, ce qui fait que c'est parfait si vous le lisez au lit. Ben, voilà, vous pouvez lire un ou deux textes et puis vous endormir. Alors ce sont des textes sur les sujets les plus variés qui soit. Alors par exemple, un éloge des cerfs-volants, où il raconte qu'il a vu des cerfs-volants et le talent des gens qui mènent les cerfs-volants, enfin voilà. Il est étonné aussi, il écrit un texte sur les gens qui disparaissent. Il dit 2500 personnes qui disparaissent. Et on annonce, enfin, on signale à la police la disparition de 2500 personnes. Il dit qu'est-ce que c'est que ces gens? Est-ce qu'ils se sauvent? Est-ce qu'ils sont morts? Et il raconte qu'il a fréquenté pendant longtemps, il a essayé de fréquenter les clochards qui étaient sur les rives de la Seine. Et il dit que généralement, il s'est fait rabrouer. Ces gens-là n'ont pas non plus du tout envie d'avoir contact avec le monde ordinaire. Et puis aussi de brèves biographies comme ce personnage étonnant, François de Théas, comte de Thorincque. On est en 1759 le comte de Thorincque, voilà, j'ai cherché. Le comte de Thorincque s'appelle François de Théas dans le civil. Eh bien, on l'envoie en tant que lieutenant du roi en Allemagne, à Francfort. Il est originaire de Grasse et il va apprendre. Il va apprendre le français, enfin, à Goethe lui-même. Et Michel Tournier nous dit, il était de Grasse, il avait sans doute l'accent provençal, donc il lui a appris le français avec l'accent. Voilà. Bon, beaucoup de textes sur Michel Tournier habitait Choisel, qui est un village de la vallée de Chevreuse et qui est voisin du château de Breteuil. Et donc c'est dans cette maison, c'était le presbytère et il avait un jardin et ce jardin était bordé par le cimetière. Un cimetière légèrement surélevé, contenu par un mur, et un beau jour, le mur cède, et toute la terre du cimetière, alors, il se demande s'il n'a pas vu des ossements, mais finalement, il n'en est pas certain, et il a fallu refaire. Alors, les morts avaient en quelque sorte envahi son jardin, voilà, c'est très amusant, très charmant, très sympathique, très érudit, très bien écrit, voilà, y compris, alors vous savez, c'était un germaniste, Michel Tournier, il nous raconte que quand il était enfant, ses parents l'envoyaient gare de l'Est, et puis des amis le récupéraient en Allemagne, il y passait ses vacances, et donc c'est devenu un très bon germaniste, et en particulier, il a bien connu Lothar de Mézières, Prussien d'origine huguenote et président des six derniers mois de la République démocratique allemande, donc un texte dédié à Lothar de Mézières. Ou encore cette, anecdote, enfin cette anecdote, c'est pire que ça, le pont Bessières. Alors le pont Bessières, c'est à Lausanne. Et c'est un pont où les gens ont coutume de se suicider. Et il nous explique qu'il y a des gens, en particulier la nuit de Noël et la nuit du 1er janvier, des bénévoles qui vont passer la nuit sur ce pont pour essayer de persuader les gens tentés par le suicide de ne pas céder à leur désespoir et de revenir parmi les vivants. Joli texte sur une initiative qui est, bon, c'est pas rigolo, mais quand même c'est intéressant. Voilà, célébration, c'est au Mercure de France, mais je suis bien certain que ça doit être en livre de poche depuis, donc c'est un livre qui a une vingtaine d'années, voyez, voilà, par Michel Tournier de l'Académie Goncourt.
Merci beaucoup pour ce conseil, on a toujours grand plaisir à lire Tournier.
Absolument.
C'est une belle écriture, limpide.
Voilà.
Ça paraît simple, mais je pense.
Et c'est du travail.
Je pense qu'il y a beaucoup de travail.
Mais on ne sent pas l'huile. Vous savez, les Latins disaient ça d'un ouvrage dont on voyait le travail qu'il avait coûté. On disait oleum olet. Là, il sent l'huile de la lampe.
C'est un auteur qui fait du bien.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Jean-François, nous avions dit en début d'émission que nous irions de l'époque baroque jusqu'à la musique contemporaine. C'est le moment, Schoenberg.
Oui, voilà. Alors bon, on va pas répéter l'histoire du dodécaphonisme. D'ailleurs, on casserait les pieds à tout le monde et la tête aussi. Schoenberg et l'école de Vienne ont essayé de révolutionner totalement l'harmonie classique qui était celle de l'époque classique, celle de Rameau, et pour les amateurs d'harmonie, le traité de Théodore Dubois, qui a écrit un énorme traité très indigeste. Bon, et figurez-vous que donc Arnold Schoenberg, Alban Berg, et bien ils ont décidé d'écrire suivant une nouvelle méthode qui était le dodécaphonisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser les 12 sons de la gamme chromatique, hein, do, do dièse, ré, ré dièse, etc. Alors, ça a donné des résultats parfois formidables, parfois un peu ennuyeux, il faut bien dire. Le plus doué, c'était peut-être Alban Berg, avec Loulou, qui est une œuvre quand même étonnante. Et puis Schoenberg. Alors Schoenberg, qui a écrit des œuvres célèbres, Le Pierrot Lunaire, que nous n'écouterons pas ce soir, mais peut-être un autre soir, et qui a écrit aussi donc les Gourlieder. Et puis, ce que je vous propose d'écouter ce soir, trois pièces pour orchestre de chambre. J'ajoute qu'il a également adapter les valses de Strauss pour un ensemble un peu bizarre où il y a violon, alto, violoncelle, flûte, harmonium et contrebasse. Et il a adapté les valses de Strauss qui perdent tout à fait ce côté brillant et séduisant et qui deviennent lugubres et inquiétantes comme un tableau de Autodix.
Tout à fait.
Et voilà. En tout cas, ce soir, nous écoutons ces trois pièces très brèves pour orchestre de chambre.
Thank you.
Voilà, donc c'est trois pièces de Schoenberg. Oui, le troisième, c'était Webern. C'est peut-être le moins connu des trois représentants de l'école de Vienne.
Bon, alors, pour terminer cette émission, il faut que je vous parle de ce beau disque de Jean-Pierre Comeau qui s'appelle L'âme sœur. Vous voyez sur la couverture, Jean-François, c'est un chant de coquelicot.
Oui, mais d'accord, et oui, et alors ?
Et alors ? À quoi sert la musique ? Sciorant à sa réponse toujours lumineuse, les larmes sèchent de l'amour vrai, comme ici l'amour passionné fusionnel d'un frère et d'une sœur. Cet ensemble de morceaux, Jean-Pierre Comeau les a écrits pendant la maladie de sa sœur, qui est morte à l'âge de 36 ans d'un cancer.
Oh mon Dieu.
Abandonnant mari, enfant, frère et famille. Et il a accompagné sa sœur pendant ces deux années de maladie et a écrit, au fur et à mesure de ces années, des morceaux de musique pour exprimer l'amour qu'il avait de sa sœur quand elle était encore là, si vous voulez. Voilà. Alors ça a donné une série de compositions qu'il a ensuite jouées en piano solo pendant quelques temps. Et puis son ami Pierre Bertrand, chef d'orchestre, lui a dit: il faut absolument que nous orchestrions ces morceaux et que tu les enregistres avec un orchestre. Donc voilà, c'est cet enregistrement qu'on entend là sur ce CD. Alors il y a autour de lui un petit ensemble de jazz avec notamment un trompettiste que vous connaissez bien, Paolo Fresu, qui est un grand ami de Jean-Pierre Comeau, qui a des racines italiennes, hein. Et puis avec Sylvain Boeuf au saxophone, et ensuite avec tout un orchestre, basson, trompette, cor, trombone, tuba, un ensemble de violons, violoncelle, etc. Enfin, un grand orchestre. Et il a enregistré donc cette série, cette suite de pièces, et je vous propose d'écouter celle qui s'appelle L'âme sœur, c'est celle qui donne le nom à l'ensemble du disque. Mais vraiment, c'est très émouvant à écouter quand on connaît d'où vient toute l'inspiration de ces compositions. Donc c'est une sorte de déclaration d'amour à sa sœur pendant qu'ils étaient dans les derniers moments de leur relation.
Thank you.
Bon, c'est une musique absolument extraordinaire. Bon, enfin, on pourrait en parler longtemps. Oui. Même avec des concepts classiques, comme ce qu'on appelle le ripieno, vous savez, le rempli. Le côté rempli, c'est-à-dire qu'il y a des accords tout le temps. Enfin bref, c'était très beau. Donc rappelez-nous, Jean-Pierre Como.
Jean-Pierre Como, donc le voilà. Disque s'appelle L'âme sœur.
L'âme sœur, voilà. Bon, ben vous pouvez.
Et vraiment.
Mais donc, si vous ne savez pas, ça ne fait rien.
Oui, oui,
vous n'êtes pas obligé de savoir. Voilà.
Il a fait ce disque il y a quelques années maintenant. Depuis, comme je vous le disais, j'avais eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Como lorsqu'il avait écrit le disque suivant. Et il nous avait confié qu'il était resté 4 ans sans pouvoir poser la moindre note sur une portée.
4 ans, c'est long quand même.
C'est long. Et que, soudain, un jour de juillet, il s'est levé tôt et il a, en une seule matinée, écrit une vingtaine de compositions qui devaient sans doute mûrir dans
son
esprit.
Oui, alors il a dû écrire les schémas directeurs.
Certainement.
Hein, parce que, je peux vous dire, pour en avoir un peu tâté, quand vous avez écrit une page de musique dans la journée... Eh ben, vous avez bien travaillé.
Oui, oui, mais là, c'est un bon. Musicien très, très intéressant.
Alors, en tout cas, je vous rappelle les deux livres de cette soirée. Chloé Chaudet, J'ai décidé de ne pas être mère, et Célébration de Michel Tournier. Et puis, nous avons écouté du Schoenberg, du Jean-Marie Leclerc, du Jean-Pierre Como, du Daniel Humer et du
Stan Getz.
Et du Stan Getz, bien sûr, bien sûr, voilà. Et en tout cas, on vous dit bonsoir et à la semaine prochaine, toujours sur RTF.
Salut Jean-François.
Salut Francis et merci pour cette parfaite réalisation technique. Thank you.